Le journal de George Fox 1667-1685 Angleterre, Europe et retour page 4. Le constable m'appelait toujours à descendre et finit par me tirer en bas. Puis il dit à un autre homme muni d'un bâton de m'arrêter et de me conduire en prison. Cet homme me mena chez un autre officier plus civil et au bout d'un moment, ils amenèrent 4 autres amis qu'ils avaient arrêtés. J'étais très fatigué et en nage, et plusieurs amis, ayant appris où je me trouvais, vinrent me voir dans la maison du constable, mais je leur dis à tous de s'en aller, de peur que les constables et les indicateurs ne les arrêtent. Peu après, les constables nous conduisirent à près d'un mille de là chez un juge de paix, homme violent et emporté. Après qu'il m'eut demandé mon nom, et que son greffier l'eût mis par écrit, le constable l'informa que j'avais prêché à l'assemblée. Le juge dit d'un ton colère, « Ne savez-vous pas que c'est contraire aux lois du roi de prêcher dans de telles assemblées illégales, ce qui est contraire à la liturgie de l'Église d'Angleterre ?» Il y avait là un homme échade, un méchant indicateur, dont on disait qu'il s'était évadé de la prison de Coventry et qu'il avait été marqué au fer à la main comme criminel à Londres, qui, entendant le juge me parler ainsi, s'avança vers lui et lui dit qu'il les avait condamnés en vertu de l'acte de la 22e année du roi Charles I. « Quoi, vous les condamnez ?» dit le juge. « Oui, répondit Chad, je les ai condamnés, et vous devez les condamner vous aussi en vertu de cet acte. » Là-dessus le juge se fâcha contre lui et dit, « Vous me faites la leçon, qui êtes-vous? Je les condamnerai pour émeute. » En entendant cela et voyant le juge en colère, l'indicateur s'en alla tout irrité, il fut ainsi déçu dans son dessein. « Je pensais qu'il ferait prêter serment à quelqu'un contre moi, c'est pourquoi je dis, que personne ne jure contre moi, car c'est mon principe de ne pas jurer, et c'est pourquoi je ne voudrais pas que quelqu'un jure contre moi. » Le juge me demanda alors si je n'avais pas prêché à l'assemblée. Je lui dis, j'ai confessé ce que Dieu et le Christ ont fait pour mon âme, et j'ai loué Dieu. Je pensais que je pouvais faire cela dans les rues et en tout lieu pour la louange de Dieu, et confesser le Christ Jésus, confession dont je n'avais point honte, et cela n'était pas contraire à la liturgie de l'Église d'Angleterre. Le juge dit que les lois étaient contre de telles assemblées contraires à la liturgie de l'Église d'Angleterre. Je répondis, « Je ne connais aucune loi contre nos assemblées, mais s'il entend l'acte fait contre ceux qui se réunissaient pour comploter, tramer et susciter des insurrections contre le roi, nous ne sommes pas de ce peuple-là et nous abhorrons toutes ces actions, et nous portons un amour véritable et une bienveillance au roi et à tous les hommes sur la terre. » Le juge me demanda ensuite si j'avais été soumis à des ordres de justice. Je lui répondis que non. Alors il prit ses livres de droit et chercha des lois contre nous, ordonnant à son greffier de noter entre-temps le reste de nos noms. Mais comme il ne pouvait trouver aucune autre loi contre nous, le greffier fit prêter serment au constable contre nous. Certains amis avertirent le constable de bien faire attention à ce qu'il allait jurer, afin d'éviter le parjure, puisqu'il les avait arrêtés dans l'entrée et non dans l'assemblée. Pourtant le constable, homme mauvais, jura qu'ils étaient dans l'assemblée. Cependant le juge dit que, puisqu'il n'y avait qu'un témoin, il relâcherait les autres, mais qu'il m'enverrait à Newgate et que je pourrais y prêcher. Je lui demandai si sa conscience lui permettait de m'envoyer à Newgate pour avoir loué Dieu et confessé le Christ Jésus. Il s'écria « Conscience, conscience », mais je sentis que mes paroles avaient touché sa conscience. Il ordonna au constable de m'emmener et qu'il ferait un ordre d'écrou pour m'envoyer en prison après avoir dîné. Je lui dis que je désirais sa paix et le bien de sa famille et qu'il soit gardé dans la crainte du Seigneur. Ainsi je partis. Et en partant, le constable accepta la parole d'un ami que je viendrais chez lui le lendemain matin pour la 8e heure. En conséquence, j'y allai avec ses amis, et le constable nous dit qu'il était allé chercher l'ordre d'écrou auprès du juge après le dîner, et que le juge lui avait dit « Revenez après le service du soir », ce qu'il fit, puis le juge lui dit qu'il pouvait me laisser partir. « Ainsi, dit le constable, vous êtes libéré. » Je lui reprochai de s'être fait indicateur et d'avoir juré contre nous. Il dit qu'il ne le ferait plus. Le lendemain, le juge rencontra Gilbert Leighty et lui demanda s'il paierait 20 livres pour l'amende de George Fox. Gilbert répondit « Non ». « Alors, dit le juge, je suis déçu, car puisqu'il n'est que locataire, je ne puis saisir l'équivalent de son amende, et puisqu'il a été amené devant moi en montrant sa capacité de payer, je ne puis reporter son amende sur un autre. Après ma libération, j'allai dans la ville. » C'était la semaine où les assises devaient se tenir, qui traiterait de beaucoup d'affaires concernant les amis. Certains étaient prisonniers, et d'autres étaient en procès d'appel en vertu de l'acte sur les réunions illégales. J'allai chez un ami non loin, afin d'être prêt si l'on me demandait d'assister ses amis avec ou sans conseil, et j'y trouvai un service à rendre. Tandis que mon esprit était préoccupé en faveur des amis et de leurs souffrances extérieures dans le monde, causées par les persécuteurs, un exercice spirituel pesa aussi fortement sur moi en ce temps-là. Je percevais l'action malveillante de cet esprit adultéré qui avait quitté l'unité céleste, Et, ayant détourné quelques-uns qui professaient la vérité vers l'inimitié et l'opposition aux amis, il travaillait maintenant à troubler l'Église du Christ par ses arguments et ses disputes. Et, pour découvrir davantage l'action de cet esprit séducteur et avertir tous les amis de s'en garder, je fus poussé à écrire l'épître suivante. À tous les élus, fidèles, appelés et choisis de Dieu, le troupeau et l'héritage de Dieu, vous qui avez été familiarisés avec les voies du Seigneur et avez gardé vos demeures dans sa vie, sa puissance et sa vérité, étant bâtis sur le saint roc et fondement céleste, Christ Jésus, qui fut le fondement des prophètes et des apôtres, fondement qui demeure inébranlable. Beaucoup de fondements ont été posés depuis les jours des apôtres, par ceux qui se sont éloignés du Christ, le fondement véritable et sûr, et leurs fondements se sont révélés pourris et ont été réduits à rien, et ceux qui ont posé ces faux fondements sont tombés dans la perte. Beaucoup depuis le jour du Christ, et beaucoup depuis que la vérité a paru dans cette nation, ont eu quelques ouvertures et lumières, sont venus parmi nous pour un temps, puis se sont de nouveau éloignés. Ceux-là sont et ont été des allants et venants, tout comme à l'époque des apôtres. Ils avaient une profession extérieure de la vérité, et se sont éloignés du véritable fondement, Christ Jésus, et ainsi de la société céleste et de l'unité des saints dans la lumière. Puis ils ont établi leur propre fondement, ils ont une forme de piété, mais ils sont hors de la puissance de Dieu et hors de l'ordre de Dieu, et de tels se sont tournés vers les arguments et les vaines disputes. Vous qui avez gardé vos demeures en Christ Jésus, le premier et le dernier, vous avez connu cet esprit. Et vous n'ignorez pas les livres mensongers, diffamatoires, scabreux et immondes, qui ont été répandus dans cette nation et au-delà des mers contre les fidèles. Il est très bon que le Seigneur leur ait permis de publier leur propre honte par l'imprimé, afin que les ennemis de la vérité soient découverts, leurs fruits et leurs esprits ont paru et se sont manifestés tant par l'imprimé que par ailleurs. Et je crois que le Seigneur permettra à cet esprit de publier encore davantage ses fruits, sa honte et sa nudité, aux professants comme aux profanes, et à tous les gens sobres, modérés et innocents, afin que sa honte et sa nudité apparaissent plus pleinement. Car bien que pendant un temps il se soit caché et couvert des feuilles de figuier d'une profession extérieure, et parfois de paroles flatteuses et complimenteuses, et d'autres fois il s'est révélé par des paroles rudes, mensongères et diffamatoires, pourtant le Seigneur Dieu frappera tous ces vains parleurs qui ne parlent pas dans l'ordre de la vie, de la vérité et de l'Évangile. C'est pourquoi, vous qui êtes fidèles, demeurez fermes dans la liberté dont le Christ vous a rendu libre, dans son gouvernement. Le gouvernement est sur ses épaules, il le soutient, et de l'accroissement de ce gouvernement et de sa paix il n'y a point de fin. Car tous ceux qui s'opposent à son ordre et à son gouvernement ne sont pas en lui, ni dans son gouvernement céleste et spirituel et dans sa paix. C'est pourquoi, vous fidèles, qui avez tenu l'épreuve au travers de nombreuses persécutions, emprisonnements et saisies de biens, vous savez qu'une couronne de gloire vous est réservée. Vous qui souffrez avec le Christ, vous régnerez avec lui dans son royaume de gloire. Vous qui mourrez avec le Christ, vous vivrez avec lui dans la vie éternelle, dans le monde qui n'a pas de fin. Vous qui avez traversé les souffrances au dehors et au dedans par de faux frères, par des allants et venants, qui ont fait blasphémer la voix de la vérité, et qui ont été des persécuteurs des fidèles par leur langue, et par l'impression et la publication de leurs livres mensongers et diffamatoires contre les fidèles. Ceux-là ont excité des magistrats et des prêtres, qui étaient prêts à user de tout prétexte pour médire de la bonne voie et de la précieuse vérité du Christ, par laquelle son peuple est rendu libre. Il vaudrait mieux pour ces trompeurs qu'ils ne fussent jamais nés. Mais Dieu les a mis en lumière, et leurs fruits et leur esprit rapace sont vus, goûtés et connus, eux qui sont devenus des Judas et des fils de perdition, pour trahir le Christ maintenant au-dedans, là où il est révélé, aux prêtres, magistrats et païens, comme Judas trahit le Christ au-dehors aux prêtres et à Pilate. Bien que certains des magistrats et des gens sobres voient leur envie et leurs erreurs, et qu'ils ont une haine déraisonnable contre les fidèles, le Seigneur consumera ce Judas, ou fils de perdition, le Seigneur le consumera par le souffle de sa bouche, et le détruira par l'éclat de sa venue, que tous les fidèles regardent donc vers le Seigneur. Et que ce méchant fils de perdition sache, quand bien même on le croirait aussi haut placé que Judas, qui participa au ministère avec les apôtres, que le Seigneur le consumera par le souffle de sa bouche et le détruira par l'éclat de sa venue, telle est sa part. L'éclat du Seigneur le détruira, et le souffle de sa bouche le consumera. Et lorsqu'il sera détruit et consumé, il n'y aura plus de fils de perdition pour trahir le Christ dans son peuple, qui vit et marche en Christ, à qui toute puissance dans le ciel notée, dans le ciel et sur la terre a été donnée, et par sa puissance saint et glorieux, il limite et ordonne, de sorte que rien ne sera fait contre son peuple, sinon ce qui est permis pour leur épreuve et leur bien, ni par des apostats persécuteurs par la langue Judas fil de perdition pour trahir, ni par les puissances extérieures pour emprisonner. La foi de chacun doit demeurer en lui et en sa puissance. Cela se réjouisse en sa puissance et voit l'accroissement de son gouvernement juste, saint, céleste, spirituel et pacifique, dans lequel le glorieux et saint ordre de vie est vécu et pratiqué par tous ses fils et ses filles, et dans son esprit est la sainte unité et le lien de la paix. Bien que vous soyez séparés corporellement les uns des autres, pourtant tous dans son esprit, êtes ensemble présents joyeux et vous réjouissant, et dans ce même esprit, vous contemplez votre ordre spirituel, votre unité, votre communion et la fermeté de votre foi en Christ Jésus. Lui qui est ferme à jamais, le premier et le dernier, dont la présence est parmi son peuple, et qui en est la tête. Ici est connue la Sion céleste, et la Jérusalem céleste, et la compagnie innombrable des anges qui sont des esprits, et les esprits des justes rendus parfaits. Voici l'assemblée générale, ou réunion générale, et une joie et réjouissance générale, céleste, sainte et spirituelle, glorifiant et louant le Seigneur Dieu Tout-Puissant, et l'agneau qui vit au siècle des siècles. Amen. George Fox, Londres, le 14 du 8 mois, 1683. Lisez ceci dans vos assemblées parmi les fidèles. Je demeurai quelque temps à Londres, visitant les amis et les réunions, et travaillant à l'œuvre du Seigneur. Les réunions avaient longtemps été interdites à l'intérieur du Bull and Mouse, mais, en ce premier jour, nous eûmes une grande réunion paisible dans la maison pour la journée. Le peuple fut si touché par la vérité et si rafraîchi par la puissante présence du Seigneur que, lorsque la réunion se termina, il ne voulait pas s'en aller. Après quelque temps, ayant plusieurs choses à écrire, j'allai à Kingston afin d'être libre des interruptions. À mon arrivée, j'appris que les officiers avaient été très grossiers lors de la réunion, les ayant maltraités puis chassés du lieu de réunion, et ils demeurèrent très injurieux pendant un certain temps. Pendant que j'y étais, j'écrivis un petit livre imprimé peu après, dont le titre était « L'adoration céleste et spirituelle des saints, leur unité et leur communion », où il est exposé en quoi consiste la véritable adoration évangélique, et en quoi se tient la véritable unité et communion des saints, avec une mise en lumière de ceux qui se sont éloignés de cette sainte unité et communion, et se sont tournés contre les saints qui y vivaient. Lorsque j'eus achevé les services pour lesquels j'y étais allé, et que j'eus visité les amis, je retournai à Londres et visitai la plupart des réunions dans la ville et aux alentours. Ensuite, j'allai visiter un ami dans l'Essex, et revenant par Dalston, je demeurai chez la veuve Scott, où j'écrivis une épître aux amis, qui peut être lue parmi mes autres livres imprimés. Je vins de Dalston à Londres, et le lendemain, on me fit appeler en hâte chez mon fils Rose à Kingston, sa fille Margaret y était très malade et désirait me voir. Je restai à Kingston environ une semaine, puis retournai à Londres, où je demeurai la plus grande partie de l'hiver suivant et du printemps, jusqu'à la réunion générale de 1684, sauf que j'allais une fois jusqu'à Enfield pour visiter les amis des environs. Pendant ce temps, je ne cessais de travailler à l'œuvre du Seigneur, assistant fréquemment aux réunions, visitant les amis qui étaient prisonniers ou malades, et écrivant des livres pour la diffusion de la vérité et pour ouvrir l'entendement des gens afin qu'ils la reçoivent. La réunion annuelle eut lieu au troisième mois. Ce fut une réunion bénie et de grand poids, où les amis furent doucement rafraîchis ensemble, car le Seigneur était avec nous et ouvrit parmi nous ses trésors célestes. Et bien que ce fût un temps de grande difficulté et de danger à cause des indicateurs et des magistrats persécuteurs, le Seigneur fut une défense et un lieu de sûreté pour son peuple. Alors je ressentis en esprit l'attrait d'aller en Hollande pour visiter la semence de Dieu dans ses provinces. Et dès que la réunion annuelle fut terminée, je me préparai pour mon voyage. M'accompagnant depuis Londres, il y avait Alexandre Pock, George Watt et Nathaniel Brasset, qui avaient aussi des attirances vers ce pays. Nous prîmes un coche le 31 du 3e mois 1684 et arrivâmes à Colchester cette nuit-là. Le lendemain, étant le premier jour, nous allâmes à la réunion de là, et bien qu'aucun avis n'eût été donné de ma venue, notre présence s'y répandit rapidement dans la ville et jusque dans plusieurs endroits de la campagne, à 7 à 10 milles de distance, si bien que beaucoup d'amis vinrent avec deux voitures à chevaux, ce qui rendit la réunion très nombreuse. J'avais un souci et un fardeau dans l'esprit, de crainte que ce grand rassemblement ne trouble la ville et ne soit plus que les magistrats ne puissent supporter, mais tout fut très calme et paisible, et nous eûmes une réunion glorieuse pour affermir et établir les amis tant dans la ville que dans la campagne, car la puissance du Seigneur était au-dessus de tout, béni soit son nom à jamais. En vérité, la puissance et la présence du Seigneur dépassaient les mots, car j'étais très faible pour entrer en réunion, et mon visage à cause d'un rhume était douloureux, mais Dieu manifesta sa force en nous et avec nous, et tout alla bien, que le Seigneur ait la gloire à jamais pour sa puissance qui soutient. Après la réunion, plus d'une centaine d'amis de la ville et de la campagne vinrent me voir chez John Furley. Nous fûmes très heureux de nous revoir, et nous fûmes grandement rafraîchis ensemble, remplis de l'amour et des richesses du Seigneur, béni soit son nom à jamais. Nous restâmes à Colchester deux jours de plus à visiter les amis, tant à leur réunion d'affaires que dans leur maison. Tôt le matin du quatrième jour, nous prîmes un coche pour Harwich, où nous rencontrâmes William Bingley et Samuel Waldenfield qui traversèrent avec nous. Vers la huitième heure du soir, nous montâmes à bord du paquebot, dont le maître était Richard Gray, mais à cause des vents contraires, ce ne fut qu'à la première heure du matin que nous appareillâmes. Nous eûmes une très bonne traversée, et le lendemain, vers la cinquième heure de l'après-midi, nous débarquâmes à Brielle, en Hollande, où nous passâmes la nuit. Tôt le lendemain matin, nous allâmes à Rotterdam, où nous restâmes plusieurs jours. Le lendemain de notre arrivée à Rotterdam, Wilberforsen, bourgmestre et parent d'Aarsunement, apprit que j'y étais et m'invita dans sa maison de campagne, désirant me parler d'une affaire concernant les filles d'Aarsunement. George Watt m'accompagna, et un frère d'Aarsunement nous y conduisit. Le bourgmestre nous reçut très aimablement et fut heureux de me voir. En abordant le sujet des filles de son parent, je vis qu'il craignait que, leur père étant mort et leur ayant laissé des héritages considérables, ces héritages ne soient détournés et que les filles ne soient mariées à leur désavantage. Sur quoi je lui dis, « C'est notre principe et notre pratique que nul ne se marie parmi nous sans avoir un certificat du consentement de ses proches ou de ses tuteurs, car notre souci chrétien est de veiller sur tous les jeunes gens qui viennent parmi nous, surtout ceux dont les parents sont morts. Et quant aux filles de votre parent, nous veillerons à ce que rien ne leur soit proposé qui ne soit conforme à la vérité et à la justice, et à ce qu'elles soient préservées dans la crainte de Dieu, selon la pensée de leur père. » Cela sembla lui donner grande satisfaction. Pendant que j'étais avec lui, beaucoup de gens vinrent là pour me voir, et je les exhortai tous à demeurer dans la crainte de Dieu, et à prêter attention à son bon esprit en eux, et à tenir leur esprit tourné vers le Seigneur. Après être resté 2 ou 3 heures et avoir discuté avec eux de plusieurs choses, je pris congé, mon hôte me renvoya très aimablement à Rotterdam dans son carrosse. Le lendemain était le premier jour et nous fûmes à la réunion, assez nombreuse, de Rotterdam, et nous déclarâmes aux gens au moyen d'un interprète. Le jour suivant, Leschwingol vint me parler, nous eûmes avec lui beaucoup d'échanges sur des matières religieuses, il sembla en être bien satisfait et fut très touché. Plusieurs autres personnes de condition avaient eu l'intention de venir me parler, mais empêchées par des affaires extraordinaires, comme je l'appris, elles ne vinrent pas. Le lendemain, nous allâmes de Rotterdam à Amsterdam, où nous eûmes une grande réunion très précieuse. L'après-midi, j'assistai là à une autre réunion avec les amis au sujet d'affaires. Il y avait à Amsterdam une réunion annuelle pour les amis de Hollande et d'Allemagne, etc., qui commença le 8e jour du 4e mois et se termina le 12e. Nous eûmes là une belle occasion de voir des amis de nombreuses régions et d'être rafraîchis ensemble dans l'amour de Dieu. Après cette réunion, avant que ceux venus des diverses provinces ne repartent, nous eûmes une réunion avec quelques amis particuliers au sujet des lieux et des pays dans lesquels nous, venus d'Angleterre pour l'œuvre du ministère, devions voyager, et pour nous enquérir de ceux d'entre eux qui pourraient nous convenir comme interprètes. Il en résulta que William Bingley et Samuel Waldenfield embarquèrent pour la Frise, avec Jacob Clos pour interprète. Alexandre Pock et George Watt demeurèrent avec moi. Nous restâmes quelques jours de plus à Amsterdam, où j'eus encore du service. Avant de quitter Amsterdam, j'allai rendre visite à Galnu Abraham, maître très renommé parmi les Mennonites ou Baptistes. Je l'avais rencontré lors de mon séjour en Hollande environ 7 ans auparavant, et William Penn et George Keyes avaient disputé avec lui. Alors, il était très hautain et très réservé, au point qu'il ne voulait pas que je le touche ni que je le regarde, s'il l'avait pu, mais me dit de détourner mes yeux de lui, car, disait-il, il le perçait. Mais maintenant, il était très affectueux et tendre, et reconnut en quelque mesure la vérité. Sa femme et sa fille étaient aussi sensibles et aimables, et nous nous séparâmes de très cordialement. Sentant nos esprits attirés vers la Frise, Alexandre Pock, George Watt et moi, avec John Clos pour interprète, prîmes un navire à Amsterdam à destination de la Frise. Et après avoir navigué 9 ou 10 lieues, nous quittâmes le navire et voyageâmes par terre à travers la Frise, visitant les amis et des gens disposés dans des villes et des villages, avec des réunions qui avaient souvent lieu nous 2 fois par jour. Après avoir été à Leeuwarden, nous passâmes par Frink jusqu'à Harlingen, en Frise occidentale, qui fut l'endroit le plus éloigné où nous allâmes dans cette région. Et après être sortis d'Amsterdam depuis 6 jours, avec un très bon service pendant ce temps, en visitant les amis et en publiant la vérité parmi le peuple, nous prîmes un navire à Harlingen pour Amsterdam, le 26 du 4e mois, et arrivâmes cette nuit-là. Le premier jour suivant, nous fûmes à la très grande et précieuse réunion d'Amsterdam. Beaucoup de gens, certains de leurs maîtres, et quelques personnes de condition y étaient. Ils semblaient très attentifs, et nous eûmes une bonne occasion, l'un après l'autre, d'annoncer la parole du Seigneur et de leur ouvrir le chemin de la vérité. John Clos interprétait pour nous. Le lendemain, je restai à Amsterdam, mais George Watts alla à un enterrement à Harlem, auquel assistaient plusieurs centaines de personnes. Il profita de l'occasion pour parler et revint vers nous cette nuit-là. Le jour suivant, nous allâmes en bateau à Ozanoverton dans le Watland et de là, dans un autre petit bateau, nous parcourûmes environ 3 milles sur une petite rivière, où nous passâmes sur et le long de 100 ponts, nous continuâmes jusqu'à Landsmeer, chez un ami nommé Timon Peters, là nous eûmes une très bonne réunion. Nous revînmes à Amsterdam le soir et fûmes à la réunion le lendemain. Outre les amis, beaucoup de personnes étaient présentes, dont le grand maître Baptiste Galnu, qui fut très attentif au témoignage de la vérité. Quand la réunion fut terminée, il vint et me prit la main très affectueusement. Le lendemain, nous allâmes en bateau à Alkmaar, à environ 24 milles d'Amsterdam, passant par plusieurs villes en chemin, dont Saardam, la grande ville des charpentiers de navires. Nous demeurâmes dans la jolie ville d'Alkmaar, et le lendemain nous eûmes une réunion chez William Williams. Outre les amis, il y avait à cette réunion beaucoup de gens très sérieux, qui furent très attentifs au témoignage de la vérité rendue par Alexander Parker, George Watts et moi-même. John Clough fut de nouveau notre interprète. C'était un sixième jour, et le septième nous retournâmes à Amsterdam afin d'être à la réunion du premier jour, car il était probable que ce serait la dernière réunion que nous y aurions. En conséquence, nous assistâmes à ce qui fut une réunion très grande et ouverte. Beaucoup de grands personnages étaient présents, y compris, nous dit-on, quelques comtes avec leur suite venue d'Allemagne. Ils étaient très graves et sobres, et l'Évangile éternel leur fut prêché. Après cette réunion, nous fîmes nos adieux aux amis d'Amsterdam, et le lendemain matin partîmes pour Haarlem, où nous eûmes une réunion chez un ami nommé Abraham Frondenberg. Un grand nombre de personnes étaient présentes, et ce fut d'un grand service. Après la réunion, un horloger d'Amsterdam, qui était à la réunion avec sa femme, désira me parler de religion. Je m'entretins longuement avec lui, et lui comme elles furent très humbles et touchées, recevant avec joie ce que je leur disais et semblant partir bien satisfaits. Le lendemain, nous allâmes à Rotterdam, où nous restâmes pour 2 réunions, puis nous allâmes à Briel pour prendre un navire pour l'Angleterre, le 16e jour du 5e mois. Vers 4 heures de l'après-midi, nous montâmes à bord du paquebot dont le maître était William Sherman et appareillâmes de Briel. Après avoir passé la Meuse d'environ 3 milles, nous jetâmes l'ancre en un lieu appelé le Pi, parce qu'il était près des sables. Nous y restâmes au mouillage jusqu'à environ 4 heures le lendemain matin, où ayant un vent assez favorable et la marée avec nous, nous levâmes l'ancre et fîmes voile. À 4 heures le jour suivant, nous étions à moins de 15 milles de Harwich, vis-à-vis du château d'Albe. Comme le vent tomba et que la marée était faible, ce ne fut qu'à la première heure de l'après-midi que nous approchâmes assez près de Harwich pour que des bateaux puissent venir recevoir les passagers et les marchandises. Il y avait à bord environ 40 passagers en tout, parmi lesquels certains étaient anglais, certains écossais, certains hollandais, certains français, certains espagnols, certains flamands et certains juifs. Je passai une journée avec les amis à Harwich, tandis qu'Alexander Pock et George Watts allèrent visiter les amis à Ipswich et revint le soir. Le lendemain matin de bonne heure, nous prîmes tous un coche pour Colchester, où nous assistâmes à une grande réunion paisible. Après la réunion, nous voyageâmes jusqu'à Witham et y logeâmes cette nuit-là. Le jour suivant, nous rencontrâmes William Mead en chemin à Hay Street, et j'allai avec lui chez lui, tandis que les autres amis allèrent à Londres. Comme j'étais affaibli par le voyage et l'exercice continuel, je passai quelque temps à me reposer et à recouvrer la santé. Entre-temps, je pus sortir et visiter les amis dans cette partie du pays. Quand je fus un peu remis, j'allai à Enfield, visitant les amis là et dans les environs, puis j'allai à Dalston voir la veuve Stott, et de là à Londres pour rencontrer, au sujet d'affaires, quelques amis venus du New Jersey, en Amérique, qui avaient demandé ma présence. C'était à la fin de l'été que je vins à Londres, où je demeurai l'hiver suivant, sauf une ou deux fois où j'accompagnais ma femme, qui était en ville avec moi, chez son fils Rose à Kingston. Et bien que mon corps fût très faible, je restai dans un service continuel, soit dans les réunions publiques quand j'étais en état de les supporter, soit dans des affaires particulières parmi les amis, et je visitais ceux qui souffraient pour la vérité, soit par l'emprisonnement, soit par la perte de leurs biens. J'écrivis aussi beaucoup de choses durant ce temps, certaines pour l'impression et d'autres pour un service particulier, telles que des lettres au roi de Danemark et une au duc de Holstein en faveur des amis qui souffraient dans ces états, comme suit. Pour le duc de Holstein, que je prie dans l'amour de Dieu, de lire ceci qui lui est envoyé avec amour. Je comprends qu'autrefois, par quelques personnes mal intentionnées, on vous rapporta, lorsque Elizabeth Hendrick vint à Frederickstadt visiter le peuple appelé Quakers, que c'était un scandale pour la religion chrétienne qu'une femme fût autorisée à prêcher dans une assemblée publique religieusement réunie. sur quoi vous donnâtes ordre au gouverneur de Frederikstad de faire quitter immédiatement cet endroit à ces gens ou de les en chasser. Mais lesdits gouverneurs, étant arméniens, et où leurs pères étant venus y vivre comme un peuple persécuté en Hollande il n'y avait guère plus de 60 ans, répondirent au duc qu'ils n'étaient pas disposés à persécuter d'autres personnes pour cause de conscience, eux qui avaient regardé, dans leur propre cas, la persécution pour ce motif comme antichrétienne. Mais après cela, le peuple de Dieu, appelé avec mépris Quakers, vous écrivit de Frederikstad, et depuis ce temps, ils ont eu leur liberté, et leurs réunions ont été paisibles, pour servir et adorer Dieu depuis près de 20 ans à Frederikstad et aux environs, librement, sans être molestés, liberté qu'ils ont reconnue comme une grande faveur et bonté de votre part. Et maintenant, ô duc, vous qui professez le christianisme d'après le grand et puissant nom de Christ Jésus, qui est roi des rois et seigneur des seigneurs, et d'après les saintes écritures de vérité de l'Ancien et du Nouveau Testament, n'employez-vous pas dans votre service et votre culte de nombreuses paroles de femmes tirées de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'apôtre a dit « Que vos femmes se taisent dans les églises, et qu'ils ne permettaient pas à la femme de parler, mais d'être soumise, et si elle voulait apprendre quelque chose, qu'elle interroge son mari à la maison, car c'est une honte pour une femme de parler dans l'église. » Et intime, 2:11-12, que la femme apprenne dans le silence, il ne lui est pas permis d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. 1 Cor 14:34. Ici le duc peut voir de quel genre de femme il était question pour être dans le silence et la soumission, celle que la loi commande de se taire et de ne pas usurper l'autorité sur l'homme, ni de parler dans l'église, c'étaient des femmes indisciplinées. Dans le même chapitre, il commande de ne pas tresser ni broder leurs cheveux, ni porter de l'or, des perles ou des vêtements coûteux. Ces choses étaient interdites par l'apôtre, et les femmes qui portent de telles choses doivent apprendre dans le silence et être soumises, et ne pas usurper l'autorité sur les hommes, car il est honteux pour de telles femmes de parler dans l'église. Mais ces mêmes femmes qui portent de l'or et de l'argent, des perles et des habits voyants, ou des vêtements coûteux, et qui tressent et brodent leurs cheveux, ne parlent-elles pas dans votre église quand vos prêtres les font chanter des psaumes? Ne parlent-elles pas quand elles chantent des psaumes? Considérez cela, ô duc, et pourtant vous dites, vos femmes doivent se taire dans l'église, et ne doivent pas parler dans l'église, mais quand elles chantent des psaumes dans vos églises se taisent-elles? Bien que l'apôtre interdise à de telles femmes, comme mentionné ci-dessus, de parler dans l'église, il encourage pourtant, ailleurs, les bonnes et saintes femmes à être des enseignantes de bonnes choses. Tite 2:3-4. L'apôtre dit aussi, « Je te prie aussi, fidèle compagnon, aide ces femmes qui ont travaillé avec moi pour l'Évangile et le reste de mes compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. » Ici, il reconnaît ces saintes femmes et les encourage, elles qui ont travaillé avec lui pour l'Évangile, et il ne les leur interdit pas. Phil 4:2-3. Il recommande pareillement Phébé à l'Église des Romains, l'appelle servante de l'Église de Sancré, lui confie son épître aux Romains depuis Corinthe, et demande à l'Église de Rome de la recevoir dans le Seigneur, comme il convient aux saints, et de l'assister dans toute affaire où elle aurait besoin, car elle a été protectrice de beaucoup et de moi-même aussi. Et il dit, « Saluez Priscille et Aquila, mes aides en Christ Jésus, qui ont risqué leur propre coup pour ma vie, non seulement je leur rends grâce, mais aussi toutes les églises et nations. » Maintenant ici, le duc peut voir que ce sont de bonnes et saintes femmes, auxquelles l'apôtre n'interdit pas de parler, Rome 16:1-4, mais qu'il recommande et Priscille et Aquila instruisirent et exposèrent à Apollo plus exactement la voie de Dieu, Actes 18:26. Ainsi ici Priscille fut instructrice tout autant qu'Aquila, et ce sont là des femmes saintes que l'apôtre n'interdit pas. Il n'interdit pas non plus aux quatre filles de Philippe, qui étaient vierges, de prophétiser. Les femmes pouvaient prier et prophétiser dans l'Église, 1 Cor 11:5. Les apôtres montrèrent aux Juifs l'accomplissement de la prophétie de Joël, que, dans les derniers jours, Dieu répandrait de son esprit sur toute chair, et leurs fils et leurs filles, leurs serviteurs et leurs servantes, prophétiseraient par l'Esprit de Dieu. Ainsi l'apôtre encourage les filles et les servantes à prophétiser aussi bien que les filles, et si elles prophétisent, elles doivent parler à l'Église ou au peuple. Joël 2:28, Actes 2:17. Myriam, la prophétesse, ne chanta-t-elle pas au Seigneur, et toutes les femmes avec elle, lorsque le Seigneur eut délivré les enfants d'Israël de Pharaon? Ne loua-t-elle pas le Seigneur, et ne prophétisa-t-elle pas dans l'assemblée des enfants d'Israël? N'était-ce pas dans l'Église? Ex 15:21. Moïse et Aaron ne lui interdirent pas de prophétiser ou de parler, mais Moïse dit, « Plaise à Dieu que tout le peuple du Seigneur fût prophète, et le peuple du Seigneur, ce sont des femmes autant que des hommes. » Déborah était juge et prophétesse, et n'usez-vous pas des paroles de Déborah et de Myriam dans votre service et votre culte? Voyez Jug 4:1-31, le long discours ou cantique de Déborah. Barak ne l'en empêcha pas, ni aucun des prêtres juifs. Ne prononça-t-elle pas ce discours ou cantique dans l'assemblée ou l'église d'Israël? Dans le livre de Ruth, il y a de bons propos de ces bonnes femmes qui n'étaient pas interdits. Anne pria dans le temple devant Élie, et le Seigneur exauça sa prière. Voyez quels discours Anne tient, et quelle louange de Dieu devant Élie, le grand prêtre, qui ne le lui interdit pas. 1 Sam 2, 1, 10. Josia le roi envoya son prêtre, avec plusieurs autres, demander conseil à Huldah la prophétesse qui demeurait à Jérusalem au collège. 2 Rois 22, 14, 15, 2 CHR 34, 22, 23. Ainsi ici le roi et ses prêtres ne méprisèrent pas le conseil de cette prophétesse, et elle prophétisa à l'assemblée d'Israël, comme on peut le voir dans ces chapitres. Dans Luc 1, 41, 45, voyez quelle parole pieuse Élisabeth s'adressa à Marie, et quelle grande parole pieuse Marie prononça aussi. Marie dit que le Seigneur a regardé l'abaissement de sa servante. Et n'employez-vous pas, dans votre culte et votre service, les paroles de Marie et de Lessibus tirées de Luc 1, 41-55 dans vos églises, tout en interdisant aux femmes de parler dans vos églises et en leur ordonnant de se taire. Pourtant, toutes sortes de femmes parlent dans vos églises quand elles chantent et disent Amen. Dans Luc 2, 36-38, il y avait Anne la prophétesse, veuve âgée d'environ 84 ans, qui ne quittait pas le temple, mais servait Dieu par des jeûnes et des prières nuit et jour. Ne confessa-t-elle pas le Christ Jésus dans le temple? Ne rendit-elle pas grâce au Seigneur? Et ne parla-t-elle pas du Christ à tous ceux qui attendaient la rédemption à Jérusalem? Luc 2, 36-38. Ainsi, de telles femmes saintes n'étaient pas interdites de parler dans l'Église, ni dans la loi ni dans l'Évangile. N'est-ce pas Marie, Madeleine et d'autres femmes qui, les premières, annoncèrent aux apôtres la résurrection du Christ? La femme, à savoir Ève, fut en effet la première dans la transgression, ainsi ce furent des femmes qui, les premières, prêchèrent la résurrection du Christ Jésus. Car le Christ dit à Marie, « Va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20, 17 et Luc 24, 10. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques, et d'autres femmes avec elles, qui dirent aux apôtres que le Christ était ressuscité d'entre les morts, et leurs paroles et ces paroles des femmes furent pour les apôtres comme des fables, et ils ne les crurent pas, Luc 24, 8, 12. Certaines femmes, aussi de notre compagnie, nous ont fort étonnés, dirent-ils. Ainsi, on voit ici que la prédication par les femmes de la résurrection du Christ étonna les apôtres. Le Christ envoya ces femmes prêcher sa résurrection, ainsi il n'est point honteux pour de telles femmes de prêcher le Christ Jésus, et elles ne doivent pas se taire quand le Christ les envoie. L'apôtre dit, « Toute langue confessera à Dieu, Rome 14, 11, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, Phil 2, 11. Ainsi, il est clair ici que les femmes doivent confesser le Christ autant que les hommes si toute langue doit confesser. Et l'apôtre a dit, « Il n'y a ni mâle ni femelle, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Galates 3, 28. Et quant à ce qui est dit, les femmes doivent interroger leur mari à la maison, le duc sait très bien que les vierges n'ont point de mari, ni les veuves, car Anne la prophétesse était veuve, et si le Christ est l'époux de l'Église, les hommes doivent lui demander conseil à la maison, autant que les femmes, avant d'enseigner. Et supposez que la femme d'un Turc soit chrétienne, ou que la femme d'un papiste soit luthérienne ou calviniste, doivent-elles demander et apprendre de leur mari à la maison avant de confesser le Christ Jésus dans l'assemblée du Seigneur? Leur conseil serait de les faire redevenir turcs ou papistes. Je prie le duc de considérer ces choses, je le prie de prêter attention à la grâce et à la vérité de Dieu dans son cœur, qui viennent par Jésus-Christ afin que par son esprit de grâce et de vérité, il en vienne à servir et adorer Dieu en esprit et en vérité, de sorte qu'il serve le Dieu vivant et éternel qu'il a fait dans sa génération et qu'il ait sa paix en Christ que le monde ne peut ôter. Et je désire sa bonne paix et sa prospérité en ce monde, et son réconfort et son bonheur éternel dans le monde qui est sans fin. Amen. Pour plus d'informations sur le thème de l'égalité des femmes, voir la lettre 320 George Fox, Londres, le 26 du 8 mois, 1684. Outre ce qui précède, j'écrivis aussi des épîtres aux amis, dont l'une est comme suit. Amis et frères en notre Seigneur Jésus-Christ, en qui vous avez la vie, la paix et le salut, marchez en celui qui est votre rocher et fondement céleste, qui demeure ferme, à qui toute puissance dans le ciel et sur la terre a été donnée. Ainsi sa puissance est sur tout. Que votre foi demeure dans sa puissance, qui est sur tout d'éternité en éternité, au-dessus du diable et de sa puissance, afin que dans la sainte sagesse céleste de Dieu, vous soyez préservés et gardés pour la gloire de Dieu, hors de tous les pièges et tentations, afin que la sagesse de Dieu soit justifiée par tous ses enfants en ce jour de sa puissance, et qu'ils soient tous fidèles, servant et adorant Dieu en esprit et en vérité, et vaillant pour cela sur la terre. Car, comme l'apôtre l'a dit, ceux qui croient sont entrés dans leur repos, et ont cessé de leurs propres œuvres, comme Dieu a cessé des siennes. Or ce repos est un repos éternel en Christ, le Fils éternel de Dieu, en qui tout vrai croyant a la vie éternelle en Christ Jésus, leur repos et leur jour éternel. Car Christ, le repos, écrase la tête du serpent et, par la mort, détruit la mort et le diable, la puissance de la mort et ses œuvres. Il est le repos éternel qui donne la vie éternelle à ses brebis. Christ accomplit les prophètes, ainsi que toutes les figures, ombres et cérémonies de l'Ancien Testament, et toutes les promesses sont oui et amen en Christ, qui était le repos éternel pour tous les vrais croyants au jour des apôtres, et depuis lors, et l'est encore maintenant. Christ est le commencement et la fin, le premier et le dernier, monté au-dessus de toute principauté, puissance, trônes et dominations, afin de remplir toutes choses. Car par Jésus-Christ toutes choses ont été faites et créées, qu'elles soient choses dans le ciel ou choses sur la terre, et il est le repos éternel. Ceux qui croient sont entrés en Christ, leur repos éternel, en qui ils ont la vie éternelle et la paix avec Dieu. C'est pourquoi je dis encore, en celui qui est votre repos, vivez et demeurez, car en lui vous êtes heureux, et ses bénédictions reposeront sur vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous préserve tous, ses vrais croyants, en Christ votre repos et votre paix en ce jour. Amen. George Fox, Londres, le 18 jour du 12 mois, 1684, 5 environ un mois après être sorti un peu de Londres, je rendis visite aux amis à South Street, Fort Greene et Enfield, où j'eus des réunions. Ensuite j'allai à Waltham Abbey, et j'assistai là à une grande réunion paisible un premier jour. Puis, revenant par Enfield et en contournant du côté d'Edmonton, je rentrai à Londres au troisième mois pour conseiller et aider les amis à présenter leurs souffrances au Parlement siégeant. Et nous rédigâmes un bref compte-rendu de nos souffrances, que nous fîmes imprimer et distribuer parmi les parlementaires. La réunion, annuelle approchant, j'étais très préoccupé pour les amis venus de la campagne, de peur qu'ils ne rencontrent quelques difficultés ou troubles sur le chemin à l'aller ou au retour, d'autant plus qu'à cette époque un grand tumulte s'éleva dans la nation au sujet du débarquement du duc de Monmouth dans l'Ouest. Mais le Seigneur, selon sa bonté accoutumée, daigna dans sa grâce préserver les amis en sûreté, et nous donna une heureuse occasion de nous réunir en paix et tranquillité, et accompagna notre réunion de sa présence vivante et rafraîchissante, béni à jamais soit son saint nom. Considérant l'agitation qui régnait dans la nation, il me vint, à la clôture de cette réunion, d'écrire quelques lignes aux amis, pour avertir tous de se tenir hors de l'esprit du monde, où se trouve le trouble, et de demeurer dans la vérité pacifique, comme suit, chers amis et frères que le Seigneur a appelés et choisis en Christ Jésus votre vie et votre salut, en qui vous avez le repos et la paix avec Dieu. Le Seigneur, par sa puissante puissance qui est sur tout, vous a préservé et soutenu jusqu'à ce jour, afin que vous soyez pour lui un peuple saint particulier, de sorte que, par son esprit et sa puissance éternelle, vous soyez tous tenus hors du monde, car dans le monde il y a du trouble. En ce grand jour du Seigneur Dieu Tout-Puissant, il secoue les cieux et la terre des professions extérieures, leurs éléments sont en feu, leur soleil et leur lune sont obscurcis, les étoiles tombent, et les montagnes et les collines vacillent et chancellent, comme ce fut parmi les Juifs au jour de l'apparition de Christ. C'est pourquoi, chers amis et frères, demeurez dans la semence Christ Jésus, le rocher et le fondement qui ne peut être ébranlé, afin que par la lumière et l'Esprit de Christ, vous voyiez que vous êtes comme des étoiles fixes dans le firmament de la puissance de Dieu. Et dans cette puissance et cette lumière vous verrez au-dessus de toutes les étoiles errantes, des nuées sans eau et des arbres sans fruits. Ce qui peut être ébranlé sera ébranlé, de même que tous ceux qui se sont égarés hors du firmament de la puissance de Dieu. Chers amis et frères, vous qui êtes rachetés de la mort et de la chute d'Adam, par Christ, le second Adam, en lui vous avez la vie, le repos et la paix, car Christ a dit, « En moi vous aurez la paix, mais dans le monde le trouble. » Et l'apôtre a dit, « Nous qui avons cru entrons dans le repos, à savoir Christ qui a vaincu le monde, écrase la tête du serpent, détruit le diable et ses œuvres, et accomplit les types, figures et ombres de l'Ancien Testament et les prophètes, en qui les promesses sont oui et amen, qui est le premier et le dernier, le commencement et la fin, le repos éternel. » Ainsi demeurez et marchez en Christ votre repos, vous tous qui l'avez reçu. Chers amis et frères, quels que soient les remous et les troubles, les tumultes ou les outrages, les querelles et les dissensions qui s'élèvent dans le monde, tenez-vous-en hors de tout cela, ne vous en préoccupez pas, mais demeurez dans la puissance du Seigneur et dans la vérité pacifique, qui est au-dessus de toutes ces choses, et dans cette puissance cherchez la paix et le bien de tous les hommes. Vivez dans l'amour que Dieu a répandu dans vos cœurs par Christ Jésus. Dans cet amour rien ne peut vous séparer de Dieu et de Christ, ni les souffrances extérieures, ni les persécutions, ni aucune chose extérieure qui est en bas et au dehors, ni empêcher ni rompre votre communion céleste dans la lumière, l'Évangile et l'Esprit de Christ, ni votre sainte communion dans le Saint-Esprit, qui procède du Père et du Fils, et qui vous conduit dans toute la vérité. Dans ce Saint-Esprit, en qui est votre sainte communion, qui procède du Père et du Fils, vous avez communion avec le Père et le Fils, et les uns avec les autres. C'est ce qui lie et unit l'Église ou le corps de Christ à lui, la tête céleste et spirituelle, et dans l'unité de son esprit, qui est le lien de la paix pour toute son Église et ses membres vivants, en qui ils ont le repos et la paix éternels en Christ, et avec Dieu à jamais, qui doit être béni et loué pour toujours. Amen. Chers amis, n'abandonnez pas le fait de vous rassembler, vous qui êtes réunis au nom de Jésus, votre prophète, que Dieu a suscité dans le Nouveau Testament pour être écouté en toutes choses. Qui vous ouvre nul ne peut fermer, qui ferme nul ne peut ouvrir. Il est votre prêtre, fait plus élevé que les cieux par la puissance d'une vie impérissable. Par lui vous êtes fait une sacrificature royale, pour offrir à Dieu un sacrifice spirituel. Il est l'évêque de vos âmes pour veiller sur vous, afin que vous ne vous égariez pas loin de Dieu. Il est le. Chers amis et frères, demeurez en Christ la vigne, afin que vous portiez du fruit pour la gloire de Dieu. Comme chacun a reçu Christ, marchez en lui, qui n'est pas du monde qui gît dans la méchanceté, afin que vous soyez préservés des modes et coutumes vaines du monde, qui satisfont la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, qui ne viennent pas du Père, mais du monde qui passe. Quiconque s'attache à ce qui n'est pas du Père, ou l'encourage, détourne l'Esprit de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que Christ règne donc dans vos cœurs, afin que vos pensées, vos âmes et vos esprits soient tenus hors des vanités du monde dans leurs paroles, leurs manières et leurs actions, afin que vous soyez un peuple particulier zélé pour les bonnes œuvres, servant le Seigneur par Jésus-Christ à la louange et à la gloire de Dieu, afin que par la parole de sa grâce vos paroles soient pleines de grâce et que dans vos vies et votre conduite, vous fassiez paraître la justice, la sainteté et la piété afin que Dieu Tout-Puissant soit glorifié en vous tous. Amen. George Fox, Londres, le 11 jour du 4 mois, 1685, j'écrivis plusieurs autres lettres aux amis dans divers pays étrangers, de qui j'avais reçu des lettres au sujet des affaires de la vérité. Les ayant envoyées, je sortis un peu de la ville, car j'étais épuisé par la chaleur du temps, l'affluence dans les réunions et les affaires continuelles. J'allai d'abord à South Street, où je demeurai plusieurs jours, et je fus fortement pénétré du sentiment de la croissance et de l'augmentation de l'orgueil, de la vanité et de l'excès dans l'habillement, et cela non seulement parmi les gens du monde, mais aussi, trop, chez certains qui venaient parmi nous et semblaient faire profession de la vérité. Percevant ce mal, je résolus d'écrire ce qui suit pour le reprendre et l'arrêter. L'apôtre Pierre a dit en 1 Pierre 3:3-4 au sujet de la parure des femmes, « Que ce ne soit pas remarqué, que ce ne soit pas, c'est une interdiction formelle la parure extérieure, consistant à tresser les cheveux, à porter de l'or ou à mettre des vêtements, mais que ce soit l'homme caché du cœur dans ce qui est incorruptible, c'est-à-dire l'ornement d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu, car c'est ainsi qu'autrefois les saintes femmes aussi qui espéraient en Dieu se paraient. » Et ici, vous pouvez voir quelle était la parure des saintes femmes, laquelle avait un grand prix devant Dieu, et dont se paraient les saintes femmes qui mettaient leur confiance en Dieu. Mais les femmes impies, qui ne se confiaient pas en Dieu, leur parure n'était pas un esprit doux et paisible. Elles se paraient en tressant leurs cheveux, en changeant d'habits et en portant de l'or, ce qui est interdit par l'apôtre dans son épître général à l'Église de Christ, les vrais chrétiens. L'apôtre Paul a dit, 1 Tim 2, 9-10, « De même aussi que les femmes se parent d'un vêtement décent, avec pudeur et modestie, non avec des cheveux tressés, ni de l'or, ni des perles, ni des habits somptueux, mais ce qui convient à des femmes faisant profession de piété par de bonnes œuvres. » Ici, vous pouvez voir de quoi les femmes qui faisaient profession de piété ne devaient pas se parer. Elles ne devaient pas se parer de cheveux tressés, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, car cela n'était pas considéré comme un vêtement décent pour des femmes saintes faisant profession de piété et de bonnes œuvres. Mais cette parure ou cet habillement est pour des femmes immodestes, sans pudeur, sans sobriété, qui ne font pas profession de piété et ne suivent pas ces bonnes œuvres que Dieu commande. C'est pourquoi il ne convient pas aux hommes et aux femmes qui font profession du vrai christianisme et de la piété de se parer d'or, de chaînes, de perles, d'habits somptueux ou de cheveux tressés, car ces choses sont pour la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie qui ne viennent pas du Père. Tous les hommes et toutes les femmes saints doivent avoir en vue ce qui est plus précieux que l'or, étant rachetés, non par des choses corruptibles, comme l'argent et l'or, de votre vaine conduite, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaute et sans tache. C'est pourquoi, comme des enfants obéissants à Dieu, ne vous conformant pas à vos convoitises d'autrefois dans votre ignorance, mais comme celui qui vous a appelés et saints, soyez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 1, 14-15, Christ a dit, « La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. » Luc 12, 23. J'ai lu au sujet d'un sage philosophe moral qui, ayant rencontré une femme le cou et la poitrine nue, posa sa main sur elle et dit, « Femme, cette chair est-elle à vendre ?» Et elle répondit, « Non. Alors je vous prie, dit-il, fermez votre boutique, entendant par là sa poitrine et son cou découvert. Ainsi, on considérait comme des prostituées celles qui allaient le cou, la poitrine et le dos nu, et non comme des personnes modestes, même parmi les païens moralistes. C'est pourquoi ceux qui professent connaître le vrai christianisme devraient avoir honte de telles choses. Vous pouvez voir un livre écrit par les papistes eux-mêmes et un autre par Richard Baxter le presbytérien, contre les poitrines et les dos nus. ce qui n'était que dans une profession extérieure se déclarait contre ces choses, à plus forte raison ceux qui sont en possession de la vérité et du vrai christianisme devraient-ils en avoir honte. Lisez, je vous prie, le troisième chapitre d'Ésaïe. Vous y verrez que le saint prophète était affligé de la vaine parure des femmes insensées et que le Seigneur l'envoya les reprendre. Jézabel, jalouse et persécutrice, sa tête parée et sa pompe, comme une prostituée fardée hors de la vérité, ne la préservèrent pas des jugements de Dieu, lorsque le Seigneur suscita Jéhu contre elle. L'orgueil ne précède-t-il pas la chute, et l'esprit obtint la ruine, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Salomon a dit, « Le Seigneur détruira la maison des orgueilleux », Prov 15-25, « car le jour du Seigneur sera sur tous les orgueilleux et les hautains, et ils seront abaissés », Ésaïe 2-12-4-1. Prenez donc garde d'appeler heureux les orgueilleux, car le Seigneur dispersera les orgueilleux dans les pensées de leur cœur et élèvera les humbles. Vous pouvez lire dans Apocalypse 17, 4-5 et Apocalypse 18 au sujet de la fausse Église, comment elle était parée au dehors, mais pleine d'abominations, et comment elle finit par tomber. Il est donc bon pour tous ceux qui professent la vérité d'user de ce monde sans en abuser, car la figure de ce monde passe, mais la parole du Seigneur demeure à jamais. Le Seigneur prend plaisir en son peuple, il parera les humbles du salut. Psaume 149, 4. Tous ceux qui connaissent la vérité telle qu'elle est en Jésus doivent être parés et revêtus de ce salut, lequel salut est une muraille forte ou un rempart contre cet esprit qui voudrait vous entraîner plus loin dans la chute loin de Dieu, vers ces choses dont l'homme et la femme déchus se délectent pour se rendre beau ou se parer. Ainsi tous ceux qui professent la vérité, soyez circonspects, sincères et ferves, suivant le Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas de ce monde, en qui vous avez la vie et la paix avec Dieu. George Fox South Street, le 24e jour du 4e mois, 1685, extrait de Valiant for the Truth. Durant la vie de George Fox, il n'y eut aucune preuve d'une disposition à imposer un style vestimentaire uniforme parmi les amis. Ils étaient rassemblés de toutes les classes de la société, de l'armée, de la marine et de l'église, des milieux commerciaux et des professions libérales, de la ferme et de l'atelier, et de toute confession religieuse en Grande-Bretagne. Ils comptaient des représentants de tous les rangs, les riches et les pauvres, les grands et les petits, les instruits et les ignorants, cavaliers et têtes rondes, membres de l'église établie et d'Icide, et ils s'habillaient aussi différemment qu'ils l'auraient naturellement fait dans de telles circonstances. Cependant, avant qu'une autre génération ne disparaisse, cette tendance naturelle de toutes les institutions humaines à graviter continuellement vers la terre loin de l'Esprit de Dieu, à moins d'être perpétuellement ranimée et élevée par la même puissance toute-puissante qui leur donne d'abord la vie, commença à se manifester dans l'organisation de la Société des Amis. George Fox avait, quelques années auparavant, été rassemblé au repos et à la joie éternelle de son Seigneur, comme le témoignait la Réunion de Londres à son sujet. Mais sa noble épouse Margaret Fox, qui avait passé plusieurs années dans diverses prisons anglaises et avait tout perdu pour l'amour de Christ et de l'Évangile, protesta contre toute simple uniformité extérieure dans l'habillement. Dans une lettre écrite de Swarthmore, au 4e mois 1698, elle dit « Chers amis, frères et sœurs, Dieu le Père de notre bienheureux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est un Dieu universel de miséricorde et d'amour envers tous les peuples. Et dans cet amour béni il nous a visités, dans un temps favorable et dans un jour de salut. Et celui qui, dès le commencement, nous apporta la bonne nouvelle de l'Évangile de paix, à savoir George Fox, demeura dans son corps parmi la plantation de Dieu, ici et là, pendant 40 ans, et nous reçûmes de lui certaines directions et instructions sur beaucoup de sujets et en de nombreuses occasions importantes. Il nous a laissé plusieurs écrits et mémoires à pratiquer selon l'Évangile qu'il prêcha parmi nous. Et jusqu'à ce jour nous avons vécu sous l'enseignement de cet Esprit éternel béni du Dieu éternel, vers lequel il nous a dirigés. Et maintenant il est bon pour nous tous d'aller de l'avant et de continuer main dans la main dans l'unité et la communion de cet Esprit éternel, dans l'humilité et l'abaissement d'esprit, chacun estimant les autres meilleurs que soi-même, et cela est très agréable à Dieu. Et prenons tous garde de toucher à quelque chose qui ressemble aux cérémonies des Juifs, car cela déplaisait à Christ, puisqu'il vint rendre témoignage contre elles, et témoigna contre leurs pratiques extérieures, leur parlant de leurs longues robes et de leurs larges phylactères, Matt 23:5. Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en longues robes et à recevoir des salutations sur les places publiques, ils recevront une condamnation plus grande, Luc 20, 46-50, mais toutes leurs œuvres, ils les font pour être vus des hommes, ainsi nous pouvons voir combien ils goûtaient peu leurs cérémonies extérieures. Gardons donc la règle et la conduite de l'Esprit éternel que Dieu nous a donné pour être notre maître, que celui-ci fasse mettre et ôter ce qui convient propre et est utile à l'État et à la condition de chacun. Prenons garde de le limiter, ni l'une ni l'autre pratique n'est sûre pour nous. Car nous sommes sous la conduite, la direction et l'enseignement de l'Évangile, qui est un esprit libre, qui conduit à l'unité, l'humilité d'esprit, les saints et serviteurs de Christ, désirant être affermis dans l'esprit libre, non lié ni limité. Les cérémonies légales sont loin de la liberté de l'Évangile. Prenons garde d'être coupables, ou d'avoir part, à ordonner ou à imaginer quoi que ce soit qui soit contraire à la liberté de l'Évangile, car l'apôtre ne voulait pas dominer sur leur foi à Corinthe, mais être des auxiliaires de leur foi. C'est une chose dangereuse de conduire beaucoup les jeunes amis à l'observation des choses extérieures, ce qui peut se faire aisément, car ils peuvent vite prendre un habit extérieur pour être tous semblables extérieurement, mais cela ne fera pas de des chrétiens. C'est l'Esprit qui donne la vie, je répugnerai à prendre part à ces choses. Que le Seigneur nous préserve, afin que nous ne fassions aucun tort à l'œuvre de Dieu, mais qu'il agisse, lui dont l'œuvre est. Nous avons vécu tranquillement et paisiblement jusqu'ici, et ce n'est pas pour le service de Dieu de faire des brèches. Margaret Fox Swarthmoral, 4 mois, 1698. La dernière lettre de Margaret, écrite à la fin de sa vie, fut une seconde supplique adressée aux Quakers de l'époque, qui s'enfonçaient toujours davantage dans le gouffre de l'uniformité vestimentaire, et désormais de la couleur. Elle est disponible à la lecture sur ce site. Malgré les multiples avertissements de Margaret Fox en 1698-1700, les Quakers irlandais, anglais et américains avaient établi une uniformité vestimentaire non écrite exigée de leurs membres. Comme Margaret Fox les en avertissait, ils entrèrent dans une mort spirituelle, croyant que l'habillement contribuait à leur justice, glissant ainsi vers une forme de la négation quake originelle des rubans superflus, des tresses en or massif et des ornements inutiles en pain d'épices sur les vêtements. En 1752, depuis Amsterdam, Samuel Neill écrivit à Richard Shackleton au sujet des Quakers d'Hollande : « Il n'y a ici aucune conformité vestimentaire parmi les professants, ce qui est propre à la simplicité de l'Évangile. J'espère que le travail dépensé pour eux, puisqu'il vient de la source de tout bien, agira ainsi avec le don qui est en eux, pour les amener à prendre conscience de leur erreur. » Malheureusement, l'erreur supposée des Hollandais était la poutre dans l'œil de tout le mouvement Quake anglophone. Il est évident que la majeure partie du mouvement Quake était dépourvue de la conduite de l'Esprit de Dieu vers 1730, voire de Quake Departure for the Truth pour plus. L'uniformité vestimentaire est une violation manifeste de la liberté chrétienne, modération oui, modestie oui, mais pas l'uniformité, surtout selon la mode d'un temps passé. Fox et les premiers Quakers n'auraient jamais porté des robes, l'habillement des hommes saints des siècles passés, pour paraître saints, pour s'appuyer sur les vêtements comme un signe de leur religion. Au contraire, leur insigne de religion résidait dans la modération de leurs paroles et de leur conduite, le fruit du Saint-Esprit, par lequel le Seigneur nous a dit de juger un homme. Ils n'auraient pas non plus porté une croix pour afficher leur piété. Après quelques semaines, je revins à Londres. Parmi d'autres services que j'y trouvais, l'un consistait à aider à rédiger un témoignage pour disculper nos amis d'avoir pris part à la récente rébellion dans l'Ouest et à tout ce complot contre le gouvernement, ce qui fut fait en conséquence et remis au juge en chef, qui devait alors se rendre dans l'Ouest avec commission pour juger les prisonniers. Je demeurai quelque temps à Londres, visitant les réunions et travaillant parmi les amis au service de la vérité. Mais voyant ma santé fort altérée par le manque d'air frais, j'allai à la maison de campagne de Charles Bathurst, à Epping Forest, où je restai quelques jours. Là, il me vint d'écrire l'épître suivante aux amis. « Chers amis, qui êtes appelés, choisis et fidèles dans ce jour d'épreuve, de tentation et de souffrance, vous que le Seigneur a soutenu de sa droite dans toutes vos souffrances, et certains jusqu'à la mort pour le Seigneur et pour l'amour de sa vérité. » Christ a dit, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde, en moi vous avez la paix, mais dans le monde vous avez du trouble. Les enfants de la semence, qui sont héritiers du royaume, savent que cela est vrai. Et quoique vous soyez éprouvés par de faux frères, des Judas et des fils de perdition, qui sont entrés dans le temple de Dieu et se sont élevés au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et l'éclat de sa venue. Et quoique vous soyez éprouvés par des pouvoirs et des principautés, pourtant rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu que vous avez en Christ Jésus. Demeurez dans cet amour qui accomplit la loi, édifiez-vous les uns les autres dans cet amour, et soyez courtois, bons et humbles, car c'est à de tels que Dieu donne abondamment sa grâce, c'est de tels qu'il instruit. Et priez dans le Saint-Esprit, qui procède du Père et du Fils, en lui gardez votre sainte communion et votre unité dans l'Esprit, dans le lien de la paix, qui est la paix céleste du Roi des Rois. Par cela vous êtes tous obligés à une bonne conduite, à garder la paix entre vous, à chercher la paix de tous les hommes, et à manifester à tous la sagesse céleste, douce et paisible, en justice et en vérité, répondant au bien en toute personne par vos vies et votre conduite, car le Seigneur est glorifié lorsque vous portez du fruit spirituel, afin que vous regardiez et contempliez le Seigneur dans toutes vos actions, et que vous sentiez toutes les bénédictions du Seigneur reposer sur vous. Que vous soyez prisonniers du Seigneur pour son nom et pour l'amour de sa vérité, ou en liberté, en toutes choses efforcez-vous d'être contents, car c'est un festin continuel, et qu'aucun trouble ne vous ébranle, alors vous serez comme le mont Sion, qui ne peut être ébranlé. En toutes choses exercez la parole de patience, laquelle parole sanctifiera toutes choses pour vous. Appliquez-vous à vivre en paix, et à faire les affaires du Seigneur qu'il exige de vous, et les vôtres, en vérité et en justice. Quoi que vous fassiez, que cela soit fait à la louange et à la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui font souffrir le peuple de Dieu font souffrir la semence dans leur personne particulière, et y emprisonnent le juste. Ils ne visitent pas la semence en eux-mêmes, mais la jettent en prison chez les autres, et ne la visitent pas en prison. Vous pouvez lire que Christ a dit que « tout cela doivent aller dans un châtiment éternel, c'est un châtiment et une prison terrible ». De tels deviennent des apostats et des rétrogrades, qui crucifient de nouveau pour eux-mêmes Christ, l'exposent publiquement à l'infamie, foulant aux pieds le sang du Fils de Dieu par lequel ils ont été purifiés, et en viennent à être impurs. De tels attristent, contristent, éteignent et se révoltent contre l'Esprit de Dieu en eux-mêmes, puis ils se révoltent contre ceux qui marchent dans l'Esprit de Dieu. Ils sont infidèles envers Dieu et envers les hommes, et ennemis de toute bonne œuvre et de tout service de Dieu. Mais leur fin sera selon leurs œuvres, ils sont comme la terre qui a souvent reçu la pluie, mais produit des ronces et des épines, qui doit être rejetée et destinée au feu. Ainsi, chers amis, dans toutes vos souffrances, sentez le bras et la puissance éternelle du Seigneur, qui vous ont soutenus jusqu'à ce jour et vous soutiendront jusqu'à la fin, tant que votre foi demeure en cela, et tant que vous êtes établis sur le rocher et le fondement, Christ Jésus, qui ne peut être ébranlé, en qui vous avez la vie et la paix avec Dieu. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, en lui, vous donne la domination, et vous préserve tous pour sa gloire, afin que dans toutes vos souffrances vous sentiez sa présence, et que, lorsque vous aurez achevé votre témoignage, vous receviez la couronne de gloire que Dieu a mis en réserve pour ceux qui le craignent et le servent. Amen. George Fox, le 15 jour du 7 mois, 1685. Retour suivant.